J'ai envie de respirer, ouais, monsieur. Je suis
d'accord avec vous, monsieur. On a tous envie de respirer. Le problème, c'est que vous circulez sur une place où ils sont tous masqués.
135 euros d'amende pour ce passant qui ne portait pas de masque dans le centre de Lille. Après la prévention, la répression. Reportage dans un instant de Maximilien Carlier.
À Paris, extension des zones où porter le masque est obligatoire à l'extérieur. Dans la capitale comme en région, les autorités durcissent les règles, y compris dans les aéroports comme celui de Bordeaux, pour les passagers arrivant de pays considérés à risque.
Nous barrons la route à l'entrée du virus à nos portes. Une des portes essentielles, c'est l'aéroport. Il y a une liste de pays rouges écarlates. Tous les vols en provenance de ces pays vont désormais, à partir de ce week-end, appliquer un nouveau protocole.
L'hommage de la nation aux 6 jeunes humanitaires français tués au Niger. Hier à Orly, Jean Castex, le Premier ministre, s'est incliné devant le cercueil de ses 6 victimes.
La France tout entière porte le deuil de vos enfants. Ces enfants qui viennent de vous être arrachés par des tueurs sanguinaires pourraient être les miens.
Dans ce journal, nous irons également au Liban où des tonnes d'aides humanitaires et de matériaux envoyés par la France sont arrivés à Beyrouth.
Sans oublier le foot et l'affiche du jour en quart de finale de la Ligue des Champions, OL Manchester City. Les supporters lyonnais, vous les entendrez, pensent que la qualification est possible. Et puis à la fin de cette édition, nous répondrons à cette question que vous vous posez, j'en suis certain, depuis longtemps. Quelle est l'odeur de la Lune ?
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est un constat qui tient en un chiffre. 2846 nouvelles contaminations en l'espace de 24 heures. Même si le nombre de patients hospitalisés continue de baisser, la progression du coronavirus en France est au plus haut depuis la fin du confinement.
Oui, c'est ce que disent les bilans publiés hier par la Direction Générale de la Santé. Conséquence, l'obligation de porter le masque en extérieur est étendue à partir de ce matin dans de nombreuses zones à Paris, sur une partie des Champs-Élysées notamment, comme dans d'autres grandes métropoles régionales, Marseille ou encore Lille, où depuis un peu moins de 2 semaines, le masque est obligatoire pour circuler dans les quartiers les plus fréquentés et après la pédagogie, les amendes. Le reportage pour Europe 1 de Maximilien Carlier.
Vous ne portez pas de masque quand même ?
Non.
Vous savez pas que c'est obligatoire ici à Lille ?
Ah non, je savais pas.
C'est dommage, vous venez de où là ?
Je viens de Paris.
Et à Paris, vous savez que c'est obligatoire aussi ?
Bah je sais pas, en tout cas, pas tout le monde le porte à Paris.
Mais enfin, c'est pas une question de tout le monde, c'est que vous devez savoir qu'à Lille, comme à Paris, c'est obligatoire le port du masque. Mais malheureusement, vous allez devoir suivre mes collègues et puis ils vont vous verbaliser pour le non-port de masque.
Mais non.
135 euros d'amende, terminer la prévention, plus de fermeté, le masque, certains n'en ont pas du tout. Parfois c'est un oubli en sortant du restaurant par exemple, mais pour d'autres...
J'ai envie de respirer, ouais, monsieur,
je suis d'accord avec vous, monsieur, on a tous envie de respirer. Le problème, c'est que vous circuler sur une place où ils sont tous masqués.
Moi je viens de Maubeuge et chez nous c'est pas obligatoire, donc se faire verbaliser pour ça alors que je suis pas d'ici.
Ces excuses, elles ne passent plus. Il faut dire qu'il y a des panneaux masques obligatoires un peu partout. En 1h30, 15 verbalisations, le commandant Voreux dresse un bilan de l'opération.
Globalement c'est assez respecté, on a quand même une grosse majorité des gens qui portent le masque. Certains le portent mal, ça on le fait encore des rappels, mais ceux qui ne le portent pas, on les verbalise systématiquement. Il faut être responsable. Celui qui ne le comprend pas, ben, il mérite une sanction.
Et des contrôles sont prévus tous les jours dans les zones fréquentées de la capitale des Flandres. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.
Des règles qui se durcissent aussi dans les aéroports, celui de Bordeaux-Mérignac notamment.
Oui, depuis que les vols internationaux ont repris depuis la fin juillet, était proposé aux voyageurs qui le souhaitaient un dépistage dans le hall de l'aéroport. Mais désormais, pour les passagers arrivant des pays considérés à risque, c'est plus strict, comme l'indique le préfet délégué pour la sécurité et la défense en Gironde, Martin Guespero.
Nous barrons la route à l'entrée du virus à nos portes. Une des portes essentielles, c'est l'aéroport. Il y a une liste de pays rouges écarlates établie au niveau national. Tous les vols en provenance de ces pays vont désormais, à partir de ce week-end, appliquer un nouveau protocole. La personne qui descend de l'avion est prévenue par sa compagnie de cela. Elle doit, dans l'avion, remplir une fiche de traçabilité où nous donne ses contacts, où elle va et ce qu'elle fait. Nous le gardons pour la recontacter s'il y a un besoin. Deuxièmement, en descendant de l'avion, elle présente un test de moins de 72 heures PCR du Covid. Si elle ne le présente pas, elle a, à la descente de l'avion même, la possibilité de faire le test immédiatement avant le passage de police. Si elle refuse ce test-là, par décision préfectorale, nous la mettons en quatorzaine obligatoire. Donc on a fait déclarer aux personnes où elles allaient. Pendant qu'elles attendent le résultat, c'est 24 heures, on leur demande de porter le masque tout le temps et de s'isoler, de ne pas rentrer en contact avec la population, de ne pas aller dans des bars, des restaurants où on se met en proximité de personnes pendant un temps relativement long. C'est nouveau, ça s'applique à partir de maintenant et à partir des premiers vols qui arriveront. Pour les citer, les premiers vols viendront d'Algérie et d'Israël. Dans cette liste.
Et puis c'est nouveau aussi, la mesure s'applique depuis un peu plus de 2 heures. 14 jours d'isolement imposé à l'entrée du Royaume-Uni pour toute personne arrivant de France. Une disposition que regrette Paris, qui du coup annonce son intention de faire de même pour les voyageurs venant du Royaume-Uni et qui se rendent chez nous.
6 cercueils dans le pavillon d'honneur de l'aéroport d'Orly. Hier après-midi, le Premier ministre a rendu hommage aux humanitaires français tués au Niger.
4 femmes, 2 hommes âgés de 25 à 31 ans, exécutés au sud de Niamey avec leur guide et leur chauffeur nigérien. Jean Castex s'est incliné devant leur dépouille hier au cours de cette cérémonie sobre et qu'a suivi pour Europe 1 Johanna Chabas.
6 cercueils alignés les uns à côté des autres, couverts de draps bleus, brodés d'un ruban doré. Devant, Jean Castex se recueille quelques secondes en silence. La cérémonie est discrète à la demande des familles qui ne voulaient pas être vues. Après s'être entretenu pendant une heure avec les proches des victimes, le Premier ministre prend la parole très ému.
La France toute entière porte le deuil de vos enfants. Ces enfants qui viennent de vous être arrachés par des tueurs sanguinaires pourraient être les miens. Charline, Nadifa, Myriam, Stella, Antonin et Léo n'étaient pas partis en Afrique pour se battre, mais pour donner leur générosité. Des enfants dont vous pouvez être fiers, des enfants dont la France entière peut-être fier.
Ils n'étaient pas des soldats, ils étaient venus au Niger pour y faire le bien, insiste Jean Castex, rappelant l'importance du travail des ONG sur place. Un engagement qui ne doit pas s'arrêter malgré les événements. Selon le Premier ministre, les coupables seront traqués. Et il y a peu de doute pour Jean Castex, l'attaque était terroriste, avec la même haine et lâcheté qu'au Bataclan. La France, au secours des Libanais, après la catastrophe qui a endeuillé le pays et ravagé une partie de la capitale.
Le porte-hélicoptère Tonnerre s'est amarré hier dans le port de Beyrouth. Dans ses soutes, plusieurs tonnes de denrées alimentaires, de médicaments, mais aussi de matériaux nécessaires à la reconstruction des bâtiments soufflés par l'explosion de la semaine dernière. Faut-il encore s'assurer que la population soit bien l'unique bénéficiaire de cette aide ? Le reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 au Liban, Nicolas Fellmann.
Tout ce qu'il y a ici, c'est tout le matériel santé qui nous a été envoyé en plusieurs lots, en ayant tout ce qu'il faut.
Dans les soutes du porte-hélicoptère Tonnerre, de grosses caisses de médicaments, les militaires déchargent les palettes sur le port. Des camions emportent le tout direction une zone de stockage protégée par l'armée libanaise. Emmanuel Macron l'a martelé, la ministre des Armées Florence Parly le répète, tout doit aller directement aux Libanais.
Il faut que cette aide aille à la population libanaise qui en a besoin. L'aide internationale doit parvenir à chacun de manière efficace et transparente.
Et pour cela, la France veut tracer chaque don. Dès aujourd'hui, les ONG, les hôpitaux sélectionnés en amont vont donc eux-mêmes venir chercher l'aide qui leur est destinée. De la farine, du blé, des matériaux de construction, le tout sous un double contrôle, celui des autorités françaises et des forces armées libanaises. Pour Paris, il s'agit aussi d'aller vite, distribuer le maximum d'aide dès ce week-end pour ne pas encombrer la zone de stockage et pouvoir accueillir dès lundi le chargement d'un autre navire tricolore en route en ce moment vers le Liban. Beyrouth, Nicolas Feldman, Europe 1.
Enchaîner 2 exploits, c'est le défi que doivent relever les footballeurs de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui.
Oui, après avoir battu Eve la semaine dernière la Juventus de Turin, l'OL affronte ce soir les redoutables Anglais de Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions. Les supporters rêvent, et on les comprend, d'une qualification. Certains ont fait le déplacement à Lisbonne où va se jouer le match. Julien Froment du service des sports d'Europe 1 les a rencontrés.
Café à la main en contrebas du stade Alvarado, l'enceinte qui accueillera ce soir le match entre Manchester City et Lyon. Rémi fait partie des rares supporters lyonnais à avoir fait le déplacement à Lisbonne. Ce quart de finale, le 5e de l'histoire du club, fait naître chez lui autant de craintes que d'espoir.
La peur de prendre la fessée comme la dernière fois contre le Barça. Mais il faut, c'est sur un match, voilà, il n'y a pas de supporters, c'est à Lisbonne, donc il y a moyen.
Morgan, lui, habite à Lisbonne depuis 4 ans, mais supporte l'Olympique Lyonnais depuis toujours. Voir son équipe de cœur participer au Final 8 de la Ligue des Champions, c'est déjà une victoire en soi.
Qui aurait pu prédire en octobre que l'OL serait en quart de finale de Ligue des Champions ? Je pense que pas beaucoup de personnes. Donc voilà, c'est du bonus, il faut tout donner. Il va falloir être très très solide défensivement, mettre de l'impact et aller vite devant. Je pense que c'est notre chance.
Ils ne seront pas nombreux ce soir à Lisbonne, moins que les supporters parisiens. Mais les Lyonnais ont prévu de se réunir dans un bar du centre-ville pour soutenir leur équipe et croire ensemble à l'exploit. Lisbonne, Julien Froment, Europe 1.
Et le vainqueur affrontera le Bayern de Munich qui a écrasé le FC Barcelone hier soir. Tenez-vous bien, 8-2.
Cette question surprenante à présent, à quoi peut bien ressembler l'odeur de la lune?
Alors, je m'empresse de préciser, Eve, que nous n'avons bu que du café ce matin, tant l'interrogation peut sembler farfelue ou caractéristique d'une fin de nuit arrosée. Pour obtenir une réponse, il suffit de visiter l'étonnante exposition que propose la Cité de l'Espace à Toulouse. Vous pourrez y sentir le parfum de cet astre sur lequel l'homme a marché, mais qui demeure encore très mystérieux. Vous allez comprendre avec les explications pour Europe 1 de Gian Bergaoui.
D'habitude, pour reconstituer une odeur de désert ou de jungle, Michael Moiseff va sur place, s'imprègne de l'environnement.
Si j'avais pu aller sur la Lune, me balader en flairant, bon ben on n'a pas pu. Le ticket était cher, puis de toute manière je suis trop vieux peut-être pour y aller.
Alors cet aromaticien a dû enquêter, s'appuyer sur les descriptions des astronautes qui ont marché sur la Lune.
En fait la Lune c'est un gros caillou, donc il va y avoir des odeurs minérales. Que ce soit Neil Armstrong ou Buzz Aldrin, évoquait la poudre noire brûlée, donc un truc cramé. Et ça sent un peu comme une cheminée refroidie.
Pendant deux mois, Michael Moiseff fait des essais dans son laboratoire, tente différents mélanges de composants et de molécules. L'odeur de la Lune, ça sent donc...
L'odeur de la poussière de pierre, une odeur sèche avec des notes un peu de charbon, de brûlé, puis des notes de soufré. Voilà, grosso modo, c'est cette odeur de la poudre noire brûlée.
Une odeur de lune que chaque personne sent différemment en fonction des molécules et des capteurs de notre nez.
Voilà, l'odeur de la poudre noire brûlée. Je ne suis pas certain que la fragrance lunaire devienne un parfum à succès.
En même temps, ça aurait le mérite d'être original. Merci beaucoup, Stéphane. Vous nous présentiez ce tout premier journal de la matinée. Retour de l'info à 7h30.